L'invité de BBC Soir.
Et l'invité de BBC Soir est le Togolais Yves Akoué Amayezo, directeur d'Afrologie, un think tank de réflexion sur les questions contemporaines de l'Afrique. Et il est également une des personnalités influentes de la société civile togolaise de la diaspora. Nous évoquons avec lui la manifestation de l'opposition réprimée aujourd'hui à Lomé. Une manifestation au cours de laquelle Jean-Pierre Fabre a été violenté. On sait que l'opposition conteste l'élection du président Faure Gnassingbé depuis le lendemain du scrutin et ses rassemblements était relativement toléré jusqu'à récemment. Pourquoi donc les autorités sont maintenant déterminées à empêcher les meetings hebdomadaires de l'IFC tendant Jean-Pierre Fabre? C'est la question que j'ai posée à Yves Akoué Amayezo, l'invité de BBC Soir.
Ce qui s'est passé au départ, ils étaient tolérés uniquement le samedi et uniquement à Lomé. Quand vous leur demandez de partir à l'intérieur du pays, ils n'étaient pas tolérés. Donc nous, on a pu constater que dans plusieurs localités, des gens ont été bastonnés et ont été mis au silence. Et dans les semaines aussi, c'était bloqué. Donc ils ont transformé la marche de la semaine en veillée. Donc c'était une veillée de prière dans des églises ou des temples. Et là, ça se passait relativement bien. Pourquoi c'est venu maintenant un changement? C'est que la plupart des pays, la plupart des organisations internationales, les problèmes des chanceleries occidentales ont des critères de sécurité. Et donc, quand le niveau de critères de sécurité est trop d'insécurité est trop élevé, il n'y a plus rien qui se passe dans le pays. Il n'y a pas de conférence, les gens ne viennent pas, les touristes ne viennent pas, etc. Donc, on a constaté que les investisseurs, bien sûr, ne viennent pas.
Vous voulez dire
donc
que le gouvernement tente d'empêcher ces manifestations pour donner l'impression que ça va au pays?
Oui, mais surtout qu'ils se sont engagés sur un certain nombre de choses, des conférences, des choses comme ça. Et donc, les conférences ne pourront pas avoir lieu si le niveau d'insécurité reste très, très élevé. Parce que les risques, c'est quoi? S'il se passe quelque chose ce jour-là, c'est les organisations qui sont venues qui doivent payer.
Donc, mais on peut dire aussi que c'est légitime pour le gouvernement de veiller à ce que la sécurité règne dans le pays, non?
Écoutez, ça c'est très simple, il suffit seulement de ne pas envoyer les militaires et les gens feront leur marche et rentrent chez eux le soir. C'est eux-mêmes qui organisent leur marche, qui mangent leur sandwich et qui rentrent chez eux. Et chaque fois qu'ils ne sont pas intervenus, il ne s'est rien passé. Les gens ont manifesté, sont rentrés. Le problème, c'est que ces marches commencent à avoir des impacts directement sur l'Union européenne, sur la Banque mondiale. La Banque mondiale vient de dire que la plus mauvaise gestion dans la région, c'était le Togo. Le dernier rapport sur comment on vit bien dans un pays, le Togo était dernier avec 155e sur 155. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir directement avec la marche. Le déficit budgétaire est actuellement de 7 ou 8% actuellement et va s'aggraver. Donc voici les éléments objectifs qui font que maintenant, ils sont dans une situation où même les bailleurs de fonds qui ont soutenu commencent à douter, même si ce gouvernement se met en place, de sa bonne gestion sur les 2, 3, 4, 5 années à venir. Donc ils sont plutôt dans une logique, plutôt de négociation, et ils pensent justement à repartir sur Compaoré. D'autres pensent qu'il vaut mieux aller chercher M. ATT du Mali. Bon voilà.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition est dans une logique surréaliste? On sait qu'on ne va pas reprendre l'élection présidentielle au Togo.
La réalité, c'est qu'on ne sait pas. C'est une histoire de budget et de décision. Si la décision est qu'on ne veut pas faire les élections, bon ok, ce sera les gens vont prendre note. Par contre, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est fort probable que les rapports de force dans l'armée, puisque vous voyez toujours Faure Gnassingbé, mais ce qui se passe, il y a une armée, et en fait une armée qui a deux parties. L'armée, ce qu'on appelle nous républicaine, et l'armée anti-républicaine. Et l'armée anti-républicaine, elle est contrôlée pratiquement par personne. Depuis des années d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Seulement, elle a repris beaucoup de force ces temps-ci, et c'est elle qui fait les exactions sur le terrain. Et l'armée républicaine n'arrive pas à intervenir dedans, une fois sur deux. Et ça pose même un problème de sécurité pour ceux-là même qui sont dans le pouvoir. Et donc la réalité.
Et à propos du passage à tabac de Jean-Pierre Fabre, l'opposition s'indigne que l'armée républicaine ou la gendarmerie, un gendarme de la République, puisse lever la main contre un élu du peuple. Qu'est-ce que le président Faure Gnassingbé lui-même pourrait éventuellement faire pour arrêter ce qui apparaît comme de la violence orchestrée?
Bon, la première chose, il faut d'abord vous poser la question, pourquoi il n'y a pas de ministre vraiment qui est en charge de ces problèmes en tant que tel? C'est tout dans les mains du président de la République. Et maintenant, ce président de la République, il faut vous poser la question aussi pourquoi il n'intervient pas. Peut-être tout simplement qu'il est là de manière visible, mais qu'il n'a aucun pouvoir, en tout cas sur les problèmes dont vous venez de parler. Donc la réalité, c'est que ce pouvoir, il est ailleurs. Mais il n'est pas visible. Et les chancelleries, les ambassadeurs, les gouvernements se sont fait avoir. Tout ce qu'on dit, nous,
mais ne serait-ce que verbalement, le président peut se prononcer sur ce problème-là.
Il faut que l'armée république ou non républicaine l'autorise à parler. Attention, vous savez que depuis 4 ou 5 mois, il ne fait que voyager. D'ailleurs, il va y avoir une publication bientôt pour expliquer les dépenses qui sont faites. Il y a 2 milliards de francs CFA uniquement pour aller en Chine et revenir sans aucun résultat.
Est-ce que vous êtes en train de dire que le président n'est pas aussi sûr de sa position?
Nous disons simplement qu'il y a un groupuscule contrôlé par un groupe de militaires ou civils qui ont mis un instrument en place qui est un président de la République qui en fait n'a pas un pouvoir de décision, en tout cas sur un certain nombre de problèmes clés, dont celui de la sécurité. Ça, nous en sommes pratiquement plus que certains maintenant, c'est qui explique les exactions que vous voyez. Maintenant, qu'on puisse toucher à Jean-Pierre Fabre, qui est un député élu par le peuple, et qu'en plus on met une bombe lacrymogène sur sa voiture, donc une tentative d'assassinat, alors là, ça devient très grave. Ça veut dire encore une fois qu'il n'y a aucun contrôle sur ces militaires-là.
Mais de là à parler de désintégration sociale au Togo, est-ce que ce n'est pas allé trop loin?
Non, c'est allé beaucoup trop loin. La réalité est relativement cantonnée. Il y a un problème fondamental sur le gouvernement qui ne veut pas rentrer en négociation. Apparemment, les choses sont en train de bouger, mais on n'a aucune preuve là-dessus pour aller vers des négociations. Les négociations, ils veulent l'organiser de telle manière que ceux qui peuvent vraiment discuter ne seront pas là. Kofi Nyam n'est pas là. Agbeyome Kodjo, on ne sait pas s'ils vont l'intégrer. Les Agbeyibo dont vous avez parlé, on ne sait même pas s'ils vont pouvoir y aller, etc. etc. Donc, c'est un système qui veut s'organiser à partir du gouvernement pour garder le pouvoir et donner une impression que la communauté internationale n'a qu'à laisser faire.
Voilà l'invité de BBC Soir, le Togolais Yves Koué Amayezo, directeur d'Afrologie. Afrologie, c'est un think tank de réflexion sur les questions contemporaines de l'Afrique. BBC Afrique, il est 18h25 en temps universel. Emmanuel Costa, un studio pour les sports. Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir Lamine.
Le football tout d'abord, 12 des joueurs béninois qui faisaient partie de l'équipe dissoute après la CAN 2010 reviennent en sélection.
Absolument, et parmi ces 12 joueurs, des ex-bannis donc, il y a 9 professionnels dont Damien Chrysostome et également Stéphane Sessegnon qui joue lui pour le Paris Saint-Germain. Chrysostome est d'ailleurs capitaine, était capitaine de cette équipe.